Dans le cadre de leur émission « Les chemins de l'histoire », Daniel et Jean Fleury vous proposent quatre émissions sur la période médiévale à Nîmes, intitulées « Du Duocento au Quattrocento ». Nous y découvrirons les prémices inspirées du modèle italien, de l'émancipation bourgeoise, de la devotia moderna et finalement de l'humanisme qui feront le lit de la réforme nîmoise. Aujourd'hui, vers la pré-réforme. Tandis que les Médicis gouvernent à Florence, nous nous dirigeons à Nîmes maintenant vers cette pré-réforme qui éclairera le XVIe siècle, illustrée entre autres par Claude Baduel. Louise de Milan, mort à Valence en 1561, qui nous accompagne de ses pavanes et sarabandes, composées vers 1536. Nous voici arrivés à la fin de ce Quattrocento nîmois dont nous avons essayé de souligner les similitudes avec sa grande sœur Florentine. Similitudes, mais aussi différences bien sûr, Florence étant alors trois ou quatre fois plus importante et plus riche. De fait, sur les deux siècles que nous avons comparés, les similitudes sont surtout socio-économiques et politiques, et en réalité identiques à celles que nous aurions pu retrouver dans d'autres cités italiennes, flamandes, provençales ou languedociennes. Cités moyennes, commerçantes, riches en artisanat, généralement textile, et suffisamment éloignées de pouvoirs centraux pour permettre à leur bourgeoisie enrichie d'accéder au gouvernement de la cité. Une accession plus ou moins rapide au XIVe siècle, selon la force du pouvoir épiscopal, les guerres ou les épidémies. Mais globalement, des trajectoires proches qui font émerger une oligarchie communale sous forme de cité-république.
Le XVe siècle est plus complexe, car les guerres génèrent maintenant des nationalismes, tandis que le commerce international tend à spécialiser et industrialiser les secteurs artisanaux, distinguant les façonniers, des négociants et des banquiers. Le système contraignant mais aussi protecteur des corporations éclate. Les inégalités sociales se creusent et des révoltes éclatent à propos de salaires et d'impôts.
De plus, la notion de paix de Dieu, arbitrée par la papauté, disparaît avec le grand schisme d'Occident de 1378 où s'opposent pape de Rome et d'Avignon. En 1409, le concile de Pise les dépose tous les deux pour en élire un autre, d'où finalement trois papes, jusqu'au concile de Constance de 1414 qui propose une réforme de l'Église sous contrôle de l'empereur et élit finalement le colonna Martin V qui rejoint Florence puis Rome, en 1420. C'est lui qui lancera la Renaissance à Rome, mais en oubliant de réformer l'Église.
Ce siècle signe la fin des républiques urbaines, reprises en main, soit par des petits nobles tout juste sortis du négoce et de la banque, tels les Médicis à Florence, soit par le pouvoir royal comme à Nîmes.
Soulignons surtout une nette différence sur le plan artistique. La surélévation d'un des clochers de la cathédrale, ou le beffroi d'ailleurs restauré depuis, sont les rares traces de construction de ce siècle à Nîmes avec les vestiges de l'îlot Scatis ou la loge des Lombards. Nous sommes loin des réalisations florentines des mécénats avisés des riches Strozzi, Médicis ou Rucellai, palais, couvents richement décorés, larges places pour célébrer des fêtes publiques, ou même du palais des papes d'Avignon ou du château de Tarascon, et des débuts d'urbanisation d'Aix-en-Provence par le roi René. À Nîmes, ni architecte, ni peintre connu. Pourtant, n'oublions pas que les dégâts iconoclastes de la Réforme et la volonté de modernisme du XVIIe et XVIIIe siècle firent très probablement disparaître quelques œuvres de cette époque. Ce qui est certain, c'est qu'ici, comme dans tout le royaume, hors la Provence, on reste fidèle au gothique flamboyant venu du Nord, plus qu'au style de la Renaissance italienne.
Alors, quelles similitudes trouver ? Elles se situent au niveau des mentalités et de la culture. L'enrichissement d'une certaine élite bourgeoise et son émancipation face aux pouvoirs tant épiscopaux que féodaux, puis royaux, génère une mentalité libérale, particulière à Nîmes comme à Florence. Et dans nombre de villes commerçantes européennes, c'est la même chose. Un certain anticléricalisme favorisé par les conflits entre la papauté et les pouvoirs centraux conteste l'autorité sacralisée de Rome, tant sur le plan politique que matériel, et même bientôt intellectuel. Alors que le clergé était à la pointe du progrès scientifique et philosophique avec de brillants universitaires tels Roger Bacon ou Thomas d'Aquin, certains religieux craignent maintenant d'être dépassés par des évolutions qui remettent en cause l'institution. L'Église devient conservatrice, favorisant des positions mystiques ou morales, puis laissant des juristes de la bourgeoisie européenne s'emparer de progrès scientifiques et philosophiques, voire théologiques.
Ainsi, depuis les Bogomiles, Pierre Valdès ou le gallicanisme de Guillaume Nogaret, puis Gerd Groth et sa Devotio Moderna, suivi au XIVe siècle de l'anglicanisme de John Wycliffe, et bien sûr du tchèque Jean Hus, professeur réputé de la faculté de Prague, devenu prêtre. Tous réclament une réforme de l'Église pour qu'elle revienne à la simplicité des premiers disciples en référence aux Écritures accessibles à tous. Excommunié en 1411 pour sa proximité avec Wycliffe et son opposition à la vente des indulgences, Hus est jugé hérétique par le Concile de Constance. Refusant de se renier pour ne pas être trouvé menteur devant le Seigneur et aussi pour n'offenser ni ma conscience ni sa vérité, la vérité de Dieu, il meurt sur le bûcher en 1415. Avec lui s'affirme une foi plus intériorisée et pas seulement conditionnée par la morale ou les œuvres. Les seigneurs de Bohême, qui le soutiennent, protestent, ce qui déclenche une croisade et aboutit aux négociations du Concile de Bâle en 1441. Il en sortira l'unité des frères moraves, qui influenceront grandement la Réforme.
En mai 1480, Laurent de Médicis nomme le jeune professeur de 25 ans, Agnolo Poliziano, ange policien, professeur de poétique et de rhétorique à l'Université de Florence. Sans le savoir, il ouvre ainsi une brèche dans la tradition pédagogique médiévale et son enseignement scolastique traditionnel, voulant concilier philosophie antique et religion chrétienne, raison et foi. Or, on ne veut plus imiter l'Antiquité, mais la rivaliser. Lectio et Disputatio, sur certains auteurs antiques ou textes bibliques, seront abandonnés. À leur place, une étude du savoir en tant qu'objet soumis à l'analyse rationnelle. C'est dans cette brèche que, suite aux guerres d'Italie, s'engouffreront des auteurs français tels que Rabelais, la Boétie ou Montaigne. Par cette critique de la scolastique, l'éducation humaniste de la Renaissance valorise la liberté individuelle face à la tradition, se détache de l'autorité ecclésiale et finalement conteste la société établie. Chacun se responsabilise dans la prise en charge solidaire du groupe social. C'est le sens pris par la Devotio Moderna, une exigence qui n'est plus une preuve de sagesse morale, mais un véritable acte politique.
Appuyé sur cette notion de droit, l'oligarchie bourgeoise accroît son pouvoir. En 1476, une requête est pourtant adressée par des petits artisans ou sénéchals de Nîmes pour modifier le statut consulaire. Quatre consuls représentatifs seront élus par tirage au sort, par corporation et non plus par quartier. Un pour les juristes, un pour les marchands et médecins, un pour les notaires et artisans, mais un seul pour les laboureurs. Élu pour un an en décembre, avec 5 ans non éligibles entre 2 charges. Pour chaque échelle, un enfant tire au sort des pommeaux dans un sac pour sélectionner un consul parmi 4 candidats. Les consuls élus choisissent à leur tour chacun 3 conseillers dans leur classe et les 4 consuls anciens choisissent 12 autres conseillers. Le sénéchal fixe en outre diverses obligations qui limitent le pouvoir politique des consuls.
Et voilà qu'en 1483, une épidémie de peste ravage la ville. Les rues et les carrefours étaient couverts de pauvres qui mouraient dans les plus déplorables dénuements des secours spirituels et temporels. Beaucoup prirent la fuite pour éviter la contagion et les chanoines même de Saint-Augustin crurent pouvoir abandonner le service de la cathédrale, ne laissant dans la ville que les prêtres absolument nécessaires pour l'administration des malades. Malgré la fermeture de la ville à tout étranger, cette peste dura près d'un an.
Les malades, entassés dans les locaux trop étroits, favorisant la contagion intramuros, les consuls réquisitionnent l'hôpital de Ruffi. Dès l'épidémie passée, en qualité d'héritier du fondateur, Guillaume Dupont proteste par un procès devant le sénéchal. Les consuls proposent alors d'acheter l'hôpital et de l'agrandir en vendant aux enchères toutes les autres maisons de charité intramuros. La vente fut bientôt conclue, approuvée par l'évêque et le sénéchal, ne réservant que ceux de Sainte-Croix, près du château royal, pour les écoles publiques, et de Saint-Marc, propriété du chapitre, pour les femmes en couche non pestiférées. Mobilier et lingerie rejoignent l'hôpital Ruffi qui, agrandi, devient l'Hôtel Dieu et représente donc le premier signe d'une assistance médicale publique de la ville.
Cependant, la vente précipitée de l'hôpital de Saint-Jacques a lésé les droits de la confrérie propriétaire qui proteste à son tour devant la cour présidiale. Pour éviter le procès, les consuls composèrent, mais 6 ans après, les pèlerins de Saint-Jacques n'étaient toujours pas hébergés, d'où nouvelle tractation devant notaire en février 1490 lors d'un conseil de ville. La moitié nord de la grande salle de l'Hôtel Dieu devra être réaménagée pour accueillir les pèlerins avec cette fois garantie d'exécution par l'évêque et le présidial. Cette anecdote cocasse illustre le rôle prépondérant pris désormais par les juristes dans l'élaboration d'un véritable droit communal. Pour l'instant, un droit collectif laïque, parallèle au droit canon, bientôt un droit individuel.
Puis, à nouveau, les Juifs sont expulsés du royaume en 1491. Charles VIII envahit l'Italie en septembre 1494 et menace Florence, y favorisant la prise de pouvoir du dominicain prophète Savonarole pour une république théocratique. Une nouvelle constitution émancipe la classe des artisans, ouvre les offices civiques mineurs à la sélection par tirage au sort et accorde à chaque citoyen le droit de vote dans un nouveau parlement, le Consiglio Maggiore. En décembre 1495, Savonarole ferme lui aussi les banques juives et expulse les prêteurs. Ils ont un an pour régler leurs comptes et doivent consentir à la commune un prêt de 9000 florins or, sans intérêt. Ensuite, leur séjour y serait limité à 20 jours. En réalité, ils seront maintenus contre des prêts renouvelés et c'est Savonarole excommunié en 1497 et exécuté l'année suivante. La République se maintiendra jusqu'en 1512, quand les papes Médicis reprendront le pouvoir.
En 1496, Alexandre VI a nommé évêque de Nîmes Guillaume VI Brissonnet, qui tenait en commande plusieurs abbayes et évêchés. Celui de Nîmes est laissé aux soins d'un grand vicaire. Souvent absent, cet évêque humaniste gallican, convaincu, sera bientôt cardinal et même principal ministre de Charles VIII, puis Louis XII. Archevêque de Reims, il couronnera Louis XII en 1498 et le soutiendra contre le pape. Lieutenant général du Languedoc en 1507, il échange Reims contre Narbonne avec son frère et donne Nîmes à son neveu Michel.
En 1497, les États du Languedoc tenus à Nîmes consacrent la prospérité de la cité. Des jurandes professionnelles s'affranchissent à la fois du consulat et des confréries religieuses, et en 1498, Louis XII accorde à celle des facturiers en laine et en soie un monopole pour le Languedoc. L'industrie de la soie se développe en effet en sous-traitance de Lyon, à qui François Ier donne le monopole de l'importation. Nîmes se retrouve en concurrence avec les soyeux avignonnais, mais aussi de Luc ou Florence. Mais, entravant le commerce, les guerres d'Italie favorisent finalement Nîmes.
Un commerce international qui bouleverse économie et politique. Les relations sociales à l'argent se modifient, ce qui déstabilise la plupart des ordres mendiants et y génère un certain relâchement des mœurs. Il y a beaucoup de mendiants aussi. En 1533, craignant que pour occasion des assemblées et conversations des pauvres, quelques contagions des pestes n'adviennent, le sénéchal, afin de délivrer la ville de tout plein de pauvres forains, desquels principalement cette dite cité de Nîmes se trouve fort chargée, ordonnera que les mendiants valides soient arrêtés, enfermés deux par deux et employés à nettoyer les rues, fossés et chemins et autres lieux publics.
Prospère par contre une riche bourgeoisie d'affaires, négociants, puis bientôt banquiers, avec chacun sa clientèle populaire. Les rois les soutiennent afin de renforcer leurs finances, leur politique religieuse gallicane et donc leur propre pouvoir. Maintenant que les voilà riches, les conseillers de ville et les consuls veulent élargir leurs prérogatives au détriment de l'évêché et de son chapitre. Ainsi, en 1512, les bénédictines de Saint-Sauveur-la-Font, ayant élu pour abbesse Planche d'Aubignac, le conseil de ville s'oppose à la confirmation de son élection par l'évêque, attendu qu'elle n'estoie personne pour l'être, pour ce qu'elle n'estoie femme de bien. Elle est pourtant nommée, et pour 9 ans.
Ainsi émergent des volontés de réforme plus ou moins radicales, alors que l'humanisme érasmien, repris par Lefèvre d'Étaples à l'école de Meaux, travaille les esprits d'hommes d'église scrupuleux, puis bientôt d'une bourgeoisie éduquée, soucieuse d'un enseignement émancipé de la vieille scolastique thomiste.
En 1510, afin d'y installer un collège, la municipalité demande aux chanoines de la cathédrale de céder l'hôpital Saint-Marc, emplacement de l'actuel muséum, en échange d'avantages financiers et de la prise en charge de l'assistance. L'échange ne se conclut qu'en 1542. En mai 1513, un conflit éclate avec l'évêque pour la nomination de Jean Augier comme maître mage de l'école humaniste. En 1521, le roi décidera que le poste de maître mage sera désormais mis au concours et ce sont les consuls qui nommeront les recteurs avec la seule approbation de l'évêque.
Un nouveau chapitre général des Augustins se tient à Nîmes en avril 1524, alors que le 8 août précédent, Jean Vallière, un Augustin de Livry, avait été le premier martyr luthérien de Paris. Vers 1525, Jacques Lefèvre publie les Épîtres et Évangiles pour les 52 dimanches de l'an. Des prédicateurs autoproclamés s'en réclament pour provoquer des troubles iconoclastes obligeant Lefèvre à s'exiler à Strasbourg. Sur demande de sa sœur Marguerite d'Angoulême, François Ier le nomme précepteur de son troisième fils et en 1528, Lefèvre traduit l'Ancien Testament en français, puis la version intégrale de la Bible en 1530.
En 1528, des procès de seigneurs hérétiques s'ouvrent dans les Cévennes. Et suspecté, le Carme, qui dirigeait l'école humaniste de Nîmes, doit quitter la ville, tandis que l'évêque interdit la lecture à l'école de livres mis à l'index par le Parlement de Toulouse. Mais, en 1533, le prieur des Augustins de Nîmes, chargé selon l'usage de prêcher le carême, lit la Bible en français pour le Vendredi Saint et prêche le pur évangile, cher aux émules de Lefèvre d'Étaples. Alerté, le Parlement de Toulouse le fait enfermer au château royal. Mais le conseil de ville le libère pour Pâques. Le mouvement humaniste évangélique est désormais lancé à Nîmes.
Les consuls décident en 1534 de regrouper les différentes écoles dispersées dans l'établissement municipal où l'enseignement devient gratuit. Les maîtres mages seront désormais laïcs avec un bail annuel convenu en juillet avec la municipalité. Humbert Pécollet est présenté, un maître S.R. originaire de Béziers. L'évêque se méfie pourtant de son enseignement. Évangéliste érasmien ou bien déjà teinté du luthérianisme, humanisme et réforme évangélique se développaient alors de concert dans une commune méfiante du dogmatisme catholique et des anabaptistes iconoclastes.
Ainsi, nous voyons finalement que toute la réforme est inscrite dans ses prémices du XVe siècle, ce fameux Quattrocento qui nous a accompagnés durant 5 émissions.